VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Eric Manilakiza en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du vendredi 15 juillet 2016. À la une ce soir, Morgane.
Nouvel attentat en France, en pleine fête nationale du 14 juillet, hier soir à Nice.
Nous déplorons la mort de 84 personnes, dont 10 enfants et adolescents. 202 personnes ont été blessées, dont 52 se trouvent en état d'urgence absolue, dont 25 sont toujours en réanimation.
Bilan annoncé par le procureur en charge des questions de terrorisme, François Molin. On aura donc les derniers développements, les réactions en Afrique et dans le monde. Un dossier spécial dans cette édition sur cette nouvelle tragédie.
Présidentielle américaine de 2016, le candidat républicain Donald Trump a mis fin en suspens. Il a choisi un conservateur et gouverneur de l'Indiana, Mike Pence, comme colistier pour la vice-présidence.
Politique congolaise, l'opposant Moïse Katumbi annonce son retour en RDC.
L'économie et les sports, mais d'abord le journal.
La France en deuil suite à l'attentat qui a fait des dizaines de morts à Nice hier soir lors des célébrations du 14 juillet. Un homme d'origine tunisienne conduisant un camion a foncé sur la foule venue admirer les feux d'artifice sur la promenade des Anglais. Le dernier bilan avec le procureur de Paris en charge des questions de terrorisme, François Molin.
Je voudrais d'abord avoir une pensée émue envers l'ensemble des victimes de cette nouvelle barbarie terroriste qui a touché hier en son cœur la ville de Nice et avoir une pensée envers tous leurs proches. À l'heure où je vous parle, nous déplorons la mort de 84 personnes, dont 10 enfants et adolescents. 202 personnes ont été blessées, dont 52 se trouvent en état d'urgence absolue. Et parmi ces 52 personnes en état d'urgence absolue, 25 sont toujours en réanimation. Ce bilan est bien sûr provisoire et peut être modifié à la hausse en fonction des gens impliqués dans cet attentat qui pourraient être amenés à se présenter dans les heures et les jours qui viennent devant les services de police et les services de santé.
Aucune revendication n'a été faite, mais l'attentat correspond aux appels au meurtre lancé par des groupes djihadistes, a expliqué le procureur qui a révélé l'identité de l'assaillant.
Ont également été découvertes, toujours dans la cabine du camion, une carte conducteur et une carte bancaire au nom de Mohamed Laouesh Boulel, né le 3 janvier 1985 en Tunisie et domicilié à Nice. Les relevés et comparaisons des empreintes papillaires ont permis de confirmer l'identité du terroriste.
Le procureur de Paris, François Molin, a également souligné que Mohamed Laouedj Boulel, 31 ans, était totalement inconnu des services de renseignement et n'a jamais fait l'objet de la moindre fiche ni du moindre signalement de radicalisation, Morgane.
François Hollande, le président français, s'est rendu à Nice, au chevet des blessés aujourd'hui. Écoutons un extrait de son allocution.
Nous avons aussi voulu exprimer notre compassion à l'égard des victimes, de leurs familles. Au moment où je m'exprime, 80 personnes sont mortes, 84 exactement. Et il y a une cinquantaine de personnes qui sont encore en urgence absolue, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Parmi ces victimes, il y a des Français, il y a aussi beaucoup d'étrangers, venus là encore de tous les continents. Et il y a beaucoup d'enfants, de jeunes enfants qui étaient venus pour assister à un feu d'artifice en famille, pour avoir de la joie, pour partager un bonheur, un éblouissement, et qui ont été ainsi frappés à mort pour simplement satisfaire la cruauté d'un individu et peut-être d'un groupe.
Voilà, c'était François Hollande, le président français à Nice aujourd'hui.
Hier soir, la fête nationale de France a donc tourné à l'horreur. Il y avait beaucoup de monde sur la célèbre promenade des Anglais à Nice pour contempler le traditionnel feu d'artifice. Un camion est venu semer la terreur dans la foule.
Le camion, il est arrivé, il a écrasé tout sur son passage. Après, il s'est arrêté. Le conducteur a été appréhendé par les policiers. Ils l'ont maîtrisé, malheureusement, beaucoup de gens morts.
Alors, quelle était l'atmosphère à Nice au lendemain de cette attaque, en pleine célébration de la fête nationale française? On écoute Valentin Dumat, journaliste à Radio France à Nice.
Soit on n'a pas dormi, soit on n'a pas réussi à se réveiller. Et l'atmosphère, c'est des gens qui travaillent, des gens qui, sous le soleil éclatant de la Côte d'Azur, continuent de vivre, mais qui baissent la tête, qui n'ont pas franchement envie de rigoler, bien évidemment, comme un sas de décompression, comme des fantômes qui se baladent un peu dans la rue, parce que tout le monde a déjà été, une fois, plusieurs fois dans sa vie, le long de la promenade des Anglais quand on est niçois, et surtout un soir de 14 juillet. La promenade des Anglais est impraticable. Il faut savoir quand même que dans chaque ville du monde, chez vous aux États-Unis, chez nous en France, il y a des endroits qui sont très importants. C'est le cas, par exemple, à Paris, avec les Champs-Élysées. À Nice, c'est la promenade des Anglais. C'est un endroit que les Niçois fréquentent énormément. Un endroit où, quand on passe à côté, on voit des bâches blanches, on voit des policiers partout, on voit la mer derrière, et ces bâches blanches qui couvrent ce qu'on voyait il y a encore quelques heures et ce qu'on ne peut plus voir.
Est-ce que la peur est là aussi ?
Absolument pas. Et là, je vous réponds en ce qui me concerne. J'ai vécu les événements parisiens le 13 novembre. J'étais à Paris. J'étais à Nice hier soir. Et c'est étrange, mais j'ai de moins en moins peur, finalement. Et je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est tout le contraire qui se produit chez moi. J'ai envie de plus en plus d'aller me baigner, d'aller faire la fête, d'aller chanter, d'aller boire des coups avec des amis, d'aller montrer au monde entier à quel point nos valeurs et notre façon de vivre est essentielle. Les terroristes pourront continuer éternellement à faire ce genre d'actes, de plus en plus lâches d'ailleurs. Je n'ai pas peur.
Voilà, c'était Valentin Dumat, journaliste de Radio France à Nice.
Et le président François Hollande a tenu ce matin à Paris une réunion de crise. Et Bagassi Koura, plusieurs mesures ont été prises, n'est-ce pas ?
Depuis hier nuit, lors d'une allocution télévisée, François Hollande avait annoncé sa volonté de prolonger pour 3 mois l'état d'urgence en vigueur depuis novembre, qui devait arriver à échéance le 26 juillet. Un projet de loi prolongeant jusqu'à la fin octobre cet état d'urgence en vigueur depuis les attaques djihadistes de novembre 2015 à Paris sera par ailleurs soumis mercredi et jeudi au Parlement. Le président François Hollande a décrété 3 jours de deuil national de samedi à lundi. Les drapeaux sont en berne sur les édifices publics depuis ce vendredi. Le chef du gouvernement, Manuel Valls, qui s'exprimait dans la cour du palais présidentiel de l'Élysée après la réunion de crise, a appelé ses compatriotes à faire bloc face à une guerre que le terrorisme nous livre. Le gouvernement belge a, de son côté, convoqué un Conseil national de sécurité vendredi matin, réunissant les ministres et responsables des forces de sécurité. Par ailleurs, selon le Conseil de l'Union européenne, la lutte antiterroriste a été rajoutée à l'agenda des 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne lundi à Bruxelles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
De retour avec vous pour cette page spéciale sur l'attentat meurtrier de Nice. On rappelle qu'un homme d'origine tunisienne conduisant un camion a foncé sur la foule venue admirer le feu d'artifice. C'était hier soir sur la promenade des Anglais et plus de 80 personnes sont mortes.
Une attaque, Morgane, qui a suscité une vague d'indignation dans le monde. Elle peut se résumer à une seule et même voix. S'unir dans la lutte contre le terrorisme, les précisions de Nathalie Barche.
51 pays réunis en Mongolie pour le sommet Europe-Asie ont condamné l'attaque. Et Ban Ki-moon a appelé à renforcer les efforts pour combattre le terrorisme. Le chef de la Ligue des États arabes, Ahmed Abdulgeit, a qualifié l'attaque de terroriste et lâche. « Nous sommes solidaires de la France, notre plus vieil allié », a déclaré Barack Obama, ajoutant se souvenir des valeurs démocratiques qui ont fait de la France une inspiration pour le monde entier. La victoire contre ce mal monstrueux nécessite l'union des forces de l'humanité civilisée, s'est indigné Vladimir Poutine. L'Allemagne est aux côtés de la France dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré Angela Merkel. Réagir est un devoir moral, a écrit le chef du gouvernement italien Matteo Renzi. Cet acte barbare démontre la nécessité d'une lutte globale contre le terrorisme, a estimé le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a affirmé la solidarité du royaume avec la France en déclarant rejeter le terrorisme sous toutes ses formes. L'Iran a estimé que le terrorisme ne peut être déraciné sans unité et collaboration internationale. L'autorité palestinienne a condamné, je cite, « un acte sauvage qui affecte la France mais aussi la liberté, l'égalité et la fraternité ». Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a offert son aide à la France pour éradiquer le terrorisme. Pour le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le terrorisme n'aura jamais raison de la démocratie, de la liberté et de nos sociétés ouvertes, a-t-il dit. Nous condamnons toute manifestation de folie meurtrière, de haine, de terrorisme et toute attaque contre la paix, a déclaré de son côté le Vatican. Les réactions ont dépassé la sphère politico-militaire, le monde du sport multipliant les hommages aux victimes. Rafael Nadal et le Real Madrid ont notamment fait part de leur tristesse et les golfeurs sur le British Open ont arboré des rubans noirs. Sur sa casquette, le français Clément Sordet a écrit en anglais « Priez pour Nice ».
De son côté, l'Organisation mondiale du tourisme appelle les vacanciers à exprimer leur solidarité envers la France en visitant le pays pour défier les terroristes, Morgan.
Réaction en Afrique maintenant. On sait pour l'heure que 3 Tunisiens ont été tués dans l'attaque commise par un Franco-Tunisien. Le jeune fils d'une de ses victimes est en outre porté disparu, d'après les autorités. De même, 3 Algériens, dont une dame de 70 ans et 2 enfants, ont été tués lors de l'attentat, d'après le ministère algérien des Affaires étrangères. Alors évidemment, l'attentat de Nice a provoqué une vague d'indignation sur l'ensemble du continent. Les leaders africains sont nombreux à avoir exprimé leur solidarité. On fait la synthèse avec John Lyndon.
L'attaque de Nice a été perpétrée par un franco-tunisien. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a qualifié ce qui est survenu en France d'acte ignoble, appelant une réponse forte face au terrorisme. « Nous sommes horrifiés et fortement choqués par les images qui nous parviennent de Nice », a déclaré le premier ministre ivoirien. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a exprimé sa compassion et son indignation. Au Burkina Faso, le gouvernement a fait part de sa profonde consternation et de sa solidarité avec les autorités et le peuple français, tout en condamnant avec fermeté cet acte barbare. Le président Macky Sall du Sénégal s'est dit profondément attristé par les attentats inqualifiables de Nice. L'Égypte condamne et assure la France de son soutien. Le terrorisme ne connaît pas de frontières et détruit la vie d'innocents à travers le monde, a souligné le président Abdel Fattah al-Sissi. Al-Achar, la plus haute institution de l'islam sunnite du pays, a aussi appelé à l'unité pour débarrasser le monde du terrorisme dont les attaques abominables contredisent les enseignements de l'islam.
John Lyndon, les djihadistes changent de méthode dans leur manière d'opérer. Comment prévenir des attaques similaires dans l'avenir ? Morgan, j'ai joint à Bruxelles le directeur du Centre stratégique européen de renseignement et sécurité, Claude Monique.
C'est très difficile de lutter contre le type d'attentat qu'on a connu hier à Nice, parce que c'est un attentat qui a apparemment été commis par un homme seul, qui a été probablement inspiré par la propagande de l'État islamique ou d'autres organisations radicales, qui a pris exemple sur les méthodes de ces organisations. Pour le moment, nous n'avons pas la preuve qu'il est en contact avec l'organisation, ni qu'il a été envoyé par l'État islamique. Donc un individu seul qui décide lui-même et tout seul de passer à l'acte, du moment où il veut passer à l'acte, de sa cible et du moyen qu'il va utiliser. C'est à peu près impossible de le détecter pour les services de renseignement et de police. Malheureusement, ce genre d'attaque, ça n'est pas impossible, mais c'est très très difficile à empêcher.
Faut-il s'attendre à de nouvelles attaques du genre ?
Il est clair que plusieurs pays d'Europe, dont la France, sont sous une menace globale importante de l'État islamique et d'autres organisations, d'Al-Qaïda aussi, mais surtout de l'État islamique. On doit s'y attendre et il est certain qu'il y aura dans les mois à venir d'autres attentats, malheureusement, qui seront en tout cas tentés en France ou en Belgique. Certains seront empêchés. Les services de renseignement et de police ont empêché beaucoup d'attentats en France ces deux dernières années. Malheureusement, il y en a eu un certain nombre qui ont réussi. Dans l'avenir, ce sera la même chose.
Il n'y a pas de solution pour éradiquer ce genre de fléau ?
La seule solution, elle est à la racine, mais ça prendra du temps. D'abord, il faut diminuer au maximum la capacité de nuisance des organisations terroristes en les détruisant et en ce qui permet de limiter, de réduire ou de supprimer leur attractivité pour une partie de la jeunesse. Deuxièmement, il faut éradiquer la propagande islamiste sur les réseaux sociaux et la contrer par une contre-propagande qui montre que le radicalisme et le djihadisme ne sont pas des solutions et qu'il faut résister à la tentation du radicalisme. Troisièmement, après, il y a des méthodes qui sont des méthodes sociétales, d'éducation, donner plus de chances aux gens, de meilleures écoles. Un garçon qui a été à l'école, qui a étudié, qui a été encadré, qui a un travail, sera probablement moins tenté que d'autres de devenir un extrémiste. Mais il y aura toujours des exceptions. Donc avec ces méthodes-là, on pourra baisser la menace. La supprimer, on ne le pourra jamais, mais on peut la baisser fortement, mais ça prendra des années.
Claude Moniquet à Bruxelles.
Voilà pour cette édition spéciale sur l'attentat qui s'est produit hier soir à Nice. Morgane Guiriac et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Moïse Katumbi, bientôt de retour à Kinshasa. Le candidat à la présidentielle en RDC était de passage aux États-Unis cette semaine. Il affirmait sur VOA Afrique qu'il va rentrer d'ici la fin du mois de juillet dans son pays et qu'il ne craint pas une éventuelle arrestation. Ancien allié du président sortant Joseph Kabila, Monsieur Katumbi a vu ses ennuis judiciaires s'accumuler depuis qu'il a quitté le giron de la majorité présidentielle. Nicolas Pino a joint l'ex-gouverneur du Katanga. On écoute Moïse Katumbi.
J'ai rencontré plusieurs personnes. Il n'y avait pas que le département d'État où j'ai été. J'ai vu des sénateurs, j'ai vu aussi les gens au Congrès, j'ai vu aussi des ONG. Je suis venu, pas pour moi, je suis venu pour le Congolais, pour demander à ce que le délai constitutionnel soit respecté et le 19 décembre soit respecté et que la CENI puisse convoquer l'élection le 19 septembre. C'était le plus important pour moi.
Vous affirmez toujours vouloir rentrer à Kinshasa malgré les menaces d'arrestation?
Et je vais rentrer, ce n'est pas la première fois. Si vous avez une bonne mémoire, en 2010 aussi, on m'avait traduit en justice parce qu'il restait une année avant l'élection présidentielle, que j'étais dans la fraude, que j'étais en train d'armer les rebelles, j'étais en train d'armer je ne sais pas qui que ce soit, et ils m'ont porté plainte en Belgique. J'ai gagné le procès en Belgique. Quand j'ai posé la question à la majorité, quand les gens posaient la question, ils disaient toujours « ce n'est pas nous, c'est la Belgique ». C'est la même chose qu'ils sont en train de faire au Congo, avec ces Grecs, soi-disant Grecs, qui veulent spolier mon grand frère pour que je ne puisse pas rentrer au Congo. Je rentre le plus vite possible. Je crois peut-être si on me libère la semaine prochaine, je vais arriver avant le président Tshisekedi. Si le médecin me dit de rester un peu, mais je vais partir ensemble avec le président Tshisekedi à Kinshasa.
Vous avez évoqué Étienne Tshisekedi. Vous l'avez rencontré récemment à Bruxelles. On a parlé d'un accord entre vous deux, mais aucune notion concernant une candidature unique de l'opposition. Pourriez-vous vous désister en faveur d'Étienne Tshisekedi?
Le plus important pour nous, c'était d'avoir le rassemblement, l'unité de l'opposition. C'est la première fois dans l'histoire du Congo que tous les opposants ont signé ensemble à Bruxelles et dire non au dialogue du président Kabila et oui à la résolution 2277. On doit avoir la première alternance au pouvoir. Ça doit se passer, je crois, le 19 décembre 2016. Et au niveau de l'opposition, nous allons nous mettre sur une même table, discuter pour voir qui peut gagner les élections facilement pour que l'opposition gagne. Il y a plusieurs candidats, mais nous ne sommes pas là pour dire non, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau. On va travailler comme des frères au niveau de l'opposition et voir si nous pouvons présenter un seul candidat. C'est le plus important pour nous.
Moïse Katumbi sur VOA Afrique, une interview à retrouver sur voafrique.com.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Beaucoup à travers le continent africain rêvent d'un visa africain. L'Union africaine, sous l'impulsion du Rwanda, va lancer un passeport symbolique qui, à terme, permettra aux dirigeants et citoyens africains de voyager librement. Les précisions de notre correspondant à Kigali, Maurice Magohane.
Le 27e sommet de l'Union africaine prévu du 17 au 18 juin prochain à Kigali, marquera le lancement effectif du passeport africain d'après la ministre des Affaires étrangères rwandaise, Madame Louise Mushikiwabo.
Le passeport panafricain qui va être lancé au cours de ce sommet fait partie d'un processus. Donc nous sommes au début d'un processus d'intégration continentale. C'est pour cela que les quelques passeports qui seront délivrés ici à Kigali sont plus ou moins symboliques. Nous voulons signaler le début d'une ère de libre circulation.
L'objectif de ce passeport africain, c'est de faciliter à terme la circulation des personnes et des biens en vue de l'intégration économique et sociale du continent. Les premiers bénéficiaires en seront les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et les représentants permanents des États membres de l'Union africaine. Pour Jennifer Chiriga, la directrice de cabinet de la Commission de l'Union africaine, l'avènement du passeport africain sera un pas de plus vers une Afrique forte, prospère et intègre. Elle assure que cette fois-ci, c'est du concret.
Je peux vous assurer que ça ne sera pas un passeport de plus. La différence avec les autres passeports, lorsque vous les avez, vous êtes obligé d'avoir un visa pour le voyage. Mais celui-ci vous assure de voyager en Afrique sans visa.
Le projet du passeport de l'Union africaine a été adopté par le comité de représentants permanents, COREP, au cours de sa 32e session ordinaire à Kigali, au Rwanda. Au cours de ce sommet, quelques passeports seront remis symboliquement au président, chef de gouvernement, ministre des Affaires étrangères et aux autres représentants. Ensuite, chaque pays prendra le relais, selon la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Madame Louise Mushikiwabo.
Il n'y aura pas de passeport africain que pour les chefs d'État, que pour les diplomates. Mais comme c'est un sommet de chefs d'État, de diplomates, on a voulu lancer ce processus d'une manière symbolique. Et puis la deuxième étape sera à chaque pays, en collaboration avec l'Union africaine, d'imprimer ses propres passeports et de pouvoir les distribuer selon la législation nationale.
Ce passeport s'inscrit dans un programme plus large, celui de l'agenda 2063, un plan d'action sur 50 ans fixé en 2015 pour faciliter l'intégration régionale africaine. Ça risque de prendre encore un peu de temps avant de voir ce passeport utilisé sur tout le continent. Maurice Mangorane, VOA Afrique, Kigali.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La chronique sur la présidentielle américaine de 2016, le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a mis fin au suspense. Il a confirmé avoir choisi comme colistier le conservateur Mike Pence, gouverneur de l'Indiana, la chronique d'Idriss Fall.
Après une journée de flottement et l'annulation d'une conférence de presse vendredi matin, l'homme d'affaires a finalement décidé d'en faire l'annonce sur son média préféré, Twitter. Et je cite, « Je suis heureux d'annoncer que j'ai choisi le gouverneur Mike Pence comme colistier pour la vice-présidence », a écrit Donald Trump en convoquant une conférence de presse demain samedi à 15h temps universel. Mike Pence dame ainsi le pion au gouverneur du New Jersey Chris Christie et Newt Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants. Maintenant, Trump et Pence vont s'atteler à mettre le parti républicain en ordre de marche pour la présidentielle lors de la convention qui se tient à partir de lundi à Cleveland dans l'Ohio.
Et Idriss Pence servira à rassurer les conservateurs, mais il n'a pas toujours été d'accord avec son nouveau chef, notamment sur les sujets de société, n'est-ce pas?
Mike Pence est le fer de lance du combat contre l'avortement depuis des années. Il a mis en place en mars dernier dans son État une loi très restrictive contre l'avortement. Il rejette les droits des gays et lesbienne, fervent opposant du mariage homosexuel, il a dû s'incliner après la législation nationale décidée par la Cour suprême en juin 2015. Mike Pence avait vivement dénoncé la proposition de Donald Trump en décembre dernier de fermer les frontières aux musulmans, un désaccord qu'il a minimisé mardi devant les journalistes. En tant que gouverneur, il avait annoncé en novembre qu'il suspendait l'accueil des réfugiés syriens dans son état. L'Indiana.
Et chez les démocrates, comment a-t-on réagi à cette annonce, Idriss ?
L'équipe de la démocrate Hillary Clinton, qui n'a pas encore annoncé son colistier, a dénoncé le choix le plus extrême jamais vu depuis une génération. John Podesta, président de l'équipe de campagne de l'ancienne secrétaire d'État, a déclaré que Pence a été l'un des premiers défenseurs du Tea Party. Les démocrates vont commencer leur convention le 25 de ce mois à Philadelphie et réagissant hier soir à l'attaque de Nice, Hillary Clinton a bien sûr condamné, mais s'est inquiétée du manque de coopération entre les agences de renseignement américaines et européennes. L'un des problèmes de l'Europe, a déclaré l'ancienne secrétaire d'État, et que les pays du vieux continent, elle a déclaré que nous avons besoin d'une forte diplomatie pour éviter des attaques à l'avenir.
La chronique d'Idriss Fall.
On passe au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Football, la Ligue des Champions, le tirage au sort du troisième tour préliminaire.
L'AS Monaco affrontera le club turc de Fenerbahçe lors du troisième tour au terme du tirage au sort effectué ce vendredi. Les autres duels de ce tour préliminaire opposeront l'Ajax d'Amsterdam au PAOK Salonique, le Sparta Prague contre le Steaua Bucarest, le Shakhtar Donetsk au Young Boys de Berne et le FC Rostov face à Anderlecht. Les vainqueurs des rencontres du troisième tour préliminaire affronteront en barrage un groupe de 5 clubs, Manchester City, Porto, Villarreal, le Borussia Mönchengladbach et l'AS Rome. Le tirage au sort des barrages sera effectué le 5 août prochain.
Chevchenko revient sur le devant de la scène.
Oui, l'ancien attaquant du Milan AC et Ballon d'Or 2004, Andrei Chevchenko, a été nommé sélectionneur de l'Ukraine. Annonce de la Fédération ukrainienne de football. Chevchenko, 39 ans, qui était jusque-là le sélectionneur adjoint, a signé un contrat de 2 ans avec une option pour 2 années supplémentaires. Il succède à Mikhailo Fomenko, démissionnaire après l'élimination de l'Ukraine dès le premier tour de l'Euro 2016. On s'en souvient, 3 défaites sans avoir marqué le moindre but. Chevchenko, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ukrainienne avec, tenez-vous bien, 48 buts en 110 matchs.
Autre changement en Belgique.
Oui, puisque le sélectionneur de l'équipe belge, Marc Wilmots, a été démis de ses fonctions car les objectifs n'ont pas été atteints lors de l'Euro, a annoncé le président de la Fédération belge, Dekes Meeker, vendredi à Bruxelles. La Belgique avait été éliminée, souvenez-vous, au stade des quarts de finale, battue 3-1 par le Pays de Galles, alors que l'objectif fixé à Marc Wilmots était d'atteindre les demi-finales. On ne connaît pas le nom de son successeur.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Maintenant, c'est la Minuteco avec John Lindon.
Au Sénégal, le régulateur des télécoms a infligé une amende de 13,96 milliards de francs CFA à l'opérateur Sonatel pour violation du droit à l'information des consommateurs. La filiale du français Orange envisage un recours contre cette pénalité qui représente 3% de son chiffre d'affaires. On reproche entre autres à la Sonatel de ne pas avoir respecté le principe de gratuité complète des appels vers son service client. La Banque africaine de développement a approuvé 2 prêts d'une valeur totale de 410 millions d'euros en appui à la réforme du secteur financier au Maroc et en Tunisie. Les engagements cumulés de l'institution panafricaine en faveur du royaume chérifien s'élèvent aujourd'hui à près de 2,38 milliards d'euros pour 35 opérations en cours.
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard-Sagnot, présentation Morgane Guerriec et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Disons un grand merci à nos 1 250 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Dites-nous ce qui domine l'actu chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.